Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jésus était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu.
Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Chaque mot, chaque virgule est important. Nous avons passé l'autre jour avec les catéchumènes 1 heure et demie sur cette simple phrase. Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Commencement. Commencement, ce n'est pas seulement le début historique, ce n'est pas seulement le commencement du déroulement de l'affaire. Le commencement, c'est à la racine, arché en grec. Au commencement était le Verbe, dira saint Jean. Commencement, ça rappelle aussi le tout premier mot de la Genèse. Au commencement, à la racine, au fondement, dans le principe. Au principe, à la racine de l'Évangile, l'Évangile c'est la bonne nouvelle. Au principe de l'Évangile de Jésus, Jésus cet homme qui est parfaitement situé dans l'histoire, cet homme historiquement, scientifiquement situé dans l'histoire. Je sais où il est né, je sais quand il est né. Je sais ce qu'il a fait, je sais quand il est mort, je sais pourquoi il est mort, je sais qui l'a tué. Tout ça, c'est parfaitement situé. C'est historique. Sa résurrection, c'est une autre affaire, c'est la foi. Commencement, principe de la bonne nouvelle de Jésus, Christ. Ce Jésus, historiquement situé, il est le Christ. Il est le Messie. Christ et Messie, c'est le même mot. Christ en grec, Messie en hébreu, le oint, celui qui a reçu l'onction. Il est le bien-aimé du Seigneur, il est l'envoyé du Seigneur, c'est le bien-aimé qui est envoyé pour être lui-même cette bonne nouvelle. Le Christ qui était annoncé depuis les siècles, promis au peuple pécheur, c'est lui qui viendrait rétablir toutes choses dans la sainteté, dans la pensée de Dieu. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Ce Christ, Jésus qui est Christ, il est Fils de Dieu. On savait que le Messie viendrait, on l'attendait. Tout le monde, au moment de la naissance de Jésus, attendait le Messie. Dès que quelqu'un se présentait avec un peu de charisme, on lui disait « Est-ce que c'est toi le Messie? Est-ce que c'est toi qui viens ?»« Non, ce n'est pas moi, dira Jean le Baptiste. » Oui, Jésus, il est le Christ, il est Fils de Dieu. On savait que le Christ naîtrait au milieu du peuple, mais qui pouvait se douter qu'il était lui-même Dieu ? Né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. consubstantiel au Père. Commencement de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Tout l'Évangile de saint Marc est planté là. Au cœur, absolument au cœur géographique de l'Évangile de saint Marc, si vous comptez le nombre de versets avant et le nombre de versets après, c'est exactement au milieu la confession de Pierre à Césarée de Philippe. « Tu es le Christ. Pour vous, qui suis-je ? » demandait Jésus. « Tu es le Christ. Toi, Jésus, tu es le Christ, tu es le Messie. » Et puis, à la fin de l'Évangile, après la mort de Jésus, immédiatement après la mort de Jésus, le centurion qui avait commandé la petite troupe, qui avait crucifié Jésus, voyant comment il était mort, s'écrie, et on l'a entendu, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Cet homme était le Fils de Dieu. » Oui, Jésus est le Christ, il est Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu, Fils unique du Père. Et la dernière phrase de l'Évangile de saint Marc, « Ils s'en allèrent, il parle des apôtres, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile, cet Évangile-là, la bonne nouvelle de Jésus. Ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Autrement dit, l'Évangile qui est la bonne nouvelle de Jésus, saint Marc l'annonce à sa manière, un des quatre évangiles, un des quatre évangélistes, à sa manière, il annonce celui qui est le Christ, celui qui est Fils de Dieu. Et au commencement, alors le commencement du déroulement de l'Évangile, la phrase suivante, « Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, rendez droit à ses sentiers. » Les prophètes l'avaient annoncé, nous le disions tout de suite, les prophètes l'avaient annoncé, et ils annonçaient cette bonne nouvelle. Ils annonçaient la venue du Messie comme la bonne nouvelle, celle qui rétablirait toutes choses. Isaïe en était un des témoins principaux. Et cette phrase que nous lisons dans la première lecture d'aujourd'hui, « Consolez, consolez mon peuple ». La bonne nouvelle, c'est la grande consolation du peuple, c'est notre consolation. Proclamez à Jérusalem que sa faute est expiée, qu'elle a reçu pour sa faute double peine. Oui, le Seigneur a offert pour nous qui sommes pécheurs, il a offert sa vie, il offre sa vie. Les prophètes le voyaient comme déjà venant dans le futur, mais nous, nous le voyons dans le passé, il l'a fait, il a réalisé ce que les prophètes avaient annoncé, il a donné sa vie. C'est la foi. Nous disions dimanche dernier que l'Avent nous réconfortait, nous ancrait dans la foi. Regardez les hauts faits de Dieu. Rappelez-vous ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a fait des merveilles. De fait, il a donné sa vie pour nous qui étions pécheurs. Et Jean le Baptiste, le dernier des prophètes, le tout dernier qui vient ouvrir le chemin, l'annonce encore, préparer les chemins du Seigneur avec une certaine urgence. Il est vêtu de poils de chameau, il se nourrit de sauterelles, c'est-à-dire cette nourriture d'ascètes dans le désert. Le désert, ce lieu de l'épreuve, ce lieu de la rencontre, le lieu de l'écoute. Au désert, je rencontrerai le Seigneur, j'écouterai la parole de Dieu, je rentrerai en moi-même. Mon épouse infidèle, disait Dieu par le prophète Osée, mon épouse infidèle, il parlait de son peuple qu'il avait épousé, l'alliance nuptiale avec son peuple. Mon épouse infidèle, je vais la conduire au désert et je parlerai à son cœur. L'Avent nous entraîne au désert parce que le Seigneur veut parler de nouveau à notre cœur. Non pas parce qu'il va nous sauver, c'est fait, je le dis et je le redis, mais parce qu'il vient de nouveau. Il viendra comme il est venu. Il vient aujourd'hui dans l'Eucharistie. Il vient aujourd'hui par le frère, par le prochain, mais il viendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Jean-Baptiste, premier témoin, qui rappelle cette promesse, il est la voix qui crie dans le désert. La voix, c'est ce qui précède la parole. La voix, c'est ce qui porte la parole. Il est la voix qui crie dans le désert. Convertissez-vous, prenez conscience de vos péchés. C'est un des tout premiers textes du pape Jean-Paul II, un des tout premiers textes, réconciliation et pénitence, prendre conscience de nouveau du péché. Comment désirer le Sauveur si on n'a pas conscience d'être pécheur? Comment désirer le salut si on n'a pas conscience d'être perdu? Si on a perdu la conscience du péché, alors le Sauveur ne sert à rien. Et c'est peut-être une des grandes difficultés de notre monde d'aujourd'hui, qui est totalement indifférente au Sauveur, parce qu'il est indifférent au péché. Est-ce que le péché existe encore? Prenons conscience, nous autres, que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin d'être sauvés, que nous avons besoin d'être rejoints par ce Dieu d'amour, ce Dieu de miséricorde. Oui, le sens du péché, disait Jean-Paul II, est immédiatement contemporain du sens de la miséricorde. C'est en découvrant mon péché que je découvre la miséricorde, c'est en découvrant la miséricorde que je découvre mon péché. C'est ce qui s'est passé très exactement pour le bon larron. Dans le même instant, il découvre et son péché et l'innocence de Jésus, la puissance d'amour de Jésus. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Alors, instantanément, il est sanctifié, il est canonisé par le Seigneur lui-même. Certains pensent, dit saint Pierre dans la deuxième lecture, certains pensent que le Seigneur est en retard pour accomplir sa promesse. Oui, il est venu, il avait annoncé qu'il reviendrait dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et certains pensent qu'il tarde à venir. De fait, 2000 ans plus tard, est-ce que nous croyons réellement qu'il vient encore? Est-ce que nous croyons réellement à son retour glorieux? Est-ce que nous croyons réellement que ce monde passe? Est-ce que nous croyons réellement que nous, personnellement, chacun d'entre nous, nous allons mourir? Notre mort, elle est évidente, nous le savons bien, même si souvent nous essayons de l'oublier, même si souvent le monde essaye d'oublier qu'il va mourir. Oui, chacun d'entre nous, nous allons mourir, nous allons passer à l'autre monde, nous allons passer de l'autre côté de la mort pour vivre en plénitude la vie qui nous est promise. Mais de la même manière, le monde doit passer et tous les biens de ce monde ne sont rien en comparaison de ce qui nous attend de l'autre côté. Nous serons éternellement à table avec le Seigneur dans ce festin des noces qu'il nous a promis. Le festin des noces auquel nous sommes tous conviés parce que le Seigneur lui-même nous servira, c'est lui qui l'a dit. Est-ce que nous sommes conscients qu'il vient? Si réellement nous sommes conscients de sa venue aujourd'hui, alors nous estimerons qu'il ne tarde pas, mais que, comme dit saint Pierre, il attend que chacun puisse se convertir. Il donne à chacun le temps nécessaire pour sa conversion. C'est vrai que le temps est mystérieux pour nous. Pourquoi tarde-t-il? Pourquoi laisse-t-il les guerres? Pourquoi laisse-t-il toutes ces souffrances? Pourquoi ces souffrances incompréhensibles dans certaines familles? Pourquoi ces maladies incurables? Pourquoi ces difficultés si grandes? Que fais-tu, Seigneur? Il vient sans cesse. Et c'est à nous d'être les témoins. C'est à nous de proclamer cette bonne nouvelle. Et nous ne la proclamerons que si nous en vivons. Que vaudront nos paroles dans le monde d'aujourd'hui si nous ne vivons pas ce mystère? Que vaudra notre mission paroissiale de samedi prochain si nous n'avons pas le sourire, si nous n'avons pas le visage de personnes qui sont sauvées, qui sont sûres, certaines d'être aimées infiniment? Laissons-nous consoler par le Seigneur, alors nous serons capables de consoler le monde auquel nous sommes envoyés. Laissons-nous consoler par le Seigneur à l'école de la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est celle qui nous conduit aujourd'hui et toujours, très particulièrement pendant ce temps de l'Avent. Marie est celle qui nous apprend à attendre avec patience, attendre avec un cœur brûlant, mais attendre dans la patience de l'amour celui qui vient sûrement, comme il est venu et comme il viendra au dernier jour. Laissons-nous renouveler par l'Esprit Saint dans la foi, en contemplant les œuvres de Dieu. Laissons-nous renouveler dans l'espérance, parce que nous attendons ce jour, le jour de la fin, le jour du jugement. Laissons-nous renouveler dans la charité, en communiant de tout notre cœur à cette présence eucharistique de Jésus. Amen.